Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un jeune Français courageux et engagé, Kevin Nader, un conseiller municipal du Rassemblement National à Ivry-sur-Seine, collaborateur parlementaire et élève avocat. Dans cette ville symbole de Ivry-la-Rouge, hein, disons-le clairement, bastion communiste depuis plus d'un siècle, Kevin Nader a réalisé quelque chose d'historique lors des municipales de mars 2026 avec sa liste Ivry Avenir. Il a obtenu 2 sièges au conseil municipal portant pour la première fois la voix du bon sens et des priorités françaises au cœur d'un bastion idéologique. Il ne se contente pas d'être élu au conseil municipal, il interpelle avec franchise les hypocrisies de la majorité, refuse les postures militantes coûteuses et défend avec constance le quotidien des Ivriens. Sécurité, service public, clarté de notre langue et priorité aux habitants. Donc aujourd'hui, dans l'esprit de Radio Courtoisie, vérité, enracinement et amour de la France, nous allons découvrir son parcours, ses premiers combats concrets et sa vision d'espoir pour redonner Ivry à ses habitants. Kevin Nader, donc merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Vous êtes donc, comme je l'ai dit en introduction, conseiller municipal et RN à Ivry-sur-Seine, collaborateur parlementaire et élève avocat. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie jeune de vous engager ainsi au service des Français dans une ville réputée un bastion de la gauche depuis des décennies ?
Eh bien, c'est tout simplement mon environnement, le chaos de mon environnement, l'absence d'ordre, le désordre, cette sensation d'être tout à fait livré à soi-même et que aucune force, aucun pouvoir ne viendra pour résoudre mes problèmes. Et donc, je me suis dit que si personne ne voulait résoudre mes problèmes, eh bien, je devrais m'en charger moi-même. Pour être franc avec vous, la première semaine de mon emménagement à Ivry-sur-Seine, il y a deux individus qui sont battus à la machette en bas de chez moi.
Et, ça commençait bien.
Voilà, ça commence bien. Donc, le samedi, dans la nuit du vendredi au samedi soir, ou du samedi soir au dimanche soir, j'étais profondément choqué, moi qui n'avais jamais vu ça de ma vie. Et j'avais toujours vécu dans des banlieues assez sympathiques et huppées du 92 à Issy-les-Moulineaux, à Puteaux. Et puis là, j'arrive à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Et première semaine, voilà cet incident majeur. Donc j'interpelle le maire qui est en caravane citoyenne une semaine plus tard. Donc une caravane citoyenne, c'est pour visiter les différents quartiers de la ville. Donc je l'interpelle avec son ancien premier adjoint sur cet incident grave, et il me répond que mon quartier, que le problème, c'est l'enclavement. C'est parce que le quartier est enclavé, et donc cet enclavement cause de la délinquance, comme si les gens étaient irresponsables, et que le quartier sera désenclavé d'ici un an, et que ma vie va changer. Bon, autant dire que j'ai déroulé le fil, j'ai enquêté, et j'ai vite compris que rien n'allait se passer pour moi, ou pour les habitants de mon quartier, ou pour les habitants d'Ivry-sur-Seine. Et donc j'ai décidé de prendre en main les choses, et c'était cette phrase qui résonnait dans ma tête, c'est « il faut bien que quelqu'un le fasse ».
D'accord.
Il faut bien que quelqu'un le fasse et que quelqu'un s'en charge. Et donc j'ai décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Moi, j'aime pas être un produit de mon environnement, j'aime que mon environnement soit mon produit. J'aime pas subir, j'aime pas subir du tout, et donc je préfère imposer mon rythme à mon environnement plutôt que de me faire imposer un rythme. Voilà.
Et vous avez donc mené la liste Ivry Avenir au municipal de mars 2026 et obtenu donc 2 sièges historiques pour le Rassemblement national. Comment avez-vous vécu cette première victoire symbolique pour les Ivriens qui aspirent au changement ?
Eh ben déjà avec beaucoup de gratitude envers les personnes qui m'ont accompagné sur ce chemin. Je pense déjà à ma femme, je pense aussi à mon patron, mon député, je pense à mon parti, je pense à l'accompagnement dont j'ai bénéficié de ces personnes-là, puis surtout de mes colistiers qui m'ont fait confiance, qui m'ont accordé leur confiance, et surtout les les 1654 Ivriens qui ont voté au premier tour et les 1556 qui ont voté au second tour pour confirmer le désir d'être réellement représenté. Donc vraiment un sentiment de gratitude et de reconnaissance envers toutes ces personnes qui, grâce à qui cette victoire historique a pu se matérialiser. Et puis après la gratitude, une sorte de sentiment d'être un peu flottant. Vous voyez, on flotte un peu après ce sprint. Je dirais pas que
c'est, oui, parce que c'est un sacré.
Voilà, je dirais que c'est une carrière politique, si on peut appeler ça une carrière. C'est un marathon, mais une élection, c'est un sprint. Donc on n'arrête pas de courir à droite, à gauche. Et au bout d'un sprint, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est assez essoufflé. On est inondé d'hormones, d'endorphines et de dopamine, comme après une séance de sport. Et puis, on a une sensation de flottement. Et c'est un peu ce qui s'est passé après cette campagne municipale, cette sensation de flottement. Et après, on
positif, évidemment.
Voilà. C'est plutôt positif. Mm-hmm. Après, on retombe, on revient très rapidement aux réalités politiques. Premier conseil municipal d'installation.
On va en reparler.
Voilà, et après, premier conseil municipal. Et donc voilà, et une fierté, surtout une fierté.
Mais y a toi.
Voilà, une fierté d'avoir porté haut et fort et avec courage. C'était mon slogan, c'était le courage d'agir. Les couleurs du seul parti aujourd'hui qui défend la France et les Français, les couleurs de la vérité pour moi. Voilà, c'était très important de proclamer la vérité à Ivry-sur-Seine sur ce qu'est la ville, sur ce qu'est devenu la ville. Et la vérité sur ce qu'aspirent les habitants réellement, les audacieux et les courageux qui ont eu le courage de voter pour moi et de m'accompagner. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde qui attendait de voir mon score pour pouvoir voter pour moi, de voir le sérieux de ma candidature. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde qui se sont reportés sur les autres listes de LR ou du PS par habitude, par peur. Voilà, ouais. C'est ça, on combat la peur par le courage. Je pense que le courage aujourd'hui est contagieux et qu'il faut, il faut être courageux soi-même pour pouvoir inspirer d'autres à suivre notre chemin.
Cher Kevin, juste un petit message à nos auditeurs.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 Boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Kevin Nader, en tant que délégué départemental, donc aussi un RN du Val-de-Marne, vous êtes aussi donc au contact des réalités nationales, hein. Quel regard portez-vous sur le dynamisme du mouvement dans le 94 aujourd'hui ?
Eh bien, le 94 est un grand département, très hétéroclite. La fédération du Val-de-Marne est une fédération très intéressante et très dynamique, qui était autrefois en fait très dynamique et qui se redynamise aujourd'hui. On a eu malheureusement... des périodes de flottement. Et aujourd'hui, la fédération est en pleine restructuration et on a manqué de cap. Et aujourd'hui, on a un cap. Mmh. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le Rassemblement National m'a fait confiance, m'a accordé cette confiance pour pouvoir me nommer à cette responsabilité, qui est une responsabilité de réel préfet du mouvement dans le département. Ouais. Donc le délégué départemental impulse l'action du parti. La dynamique militante. Et aujourd'hui, moi, je souhaite donner un cap sur 10 ans à la fédération. C'est donc vraiment d'avoir un plan de structuration sur 10 ans. C'est ce qui a manqué. Il y a eu beaucoup de successions de mes prédécesseurs. Donc, beaucoup de légués départementaux se sont succédés. Et on a eu des très bonnes personnes. Mais ces personnes après sont parties et puis il y a eu d'autres personnes et donc c'est cette absence de continuité qui a péché pour la fédération. Mmh. Et le parti m'a accordé sa confiance en voyant mon action à Ivry-sur-Seine et le dynamisme de ma campagne.
Ivry à venir,
Val-de-Marne à venir même. On va peut-être présenter une liste Val-de-Marne à venir pour les prochaines élections départementale, voilà, même peut-être sénatoriale, qui sait. Mm-hmm. Donc voilà, et donc la tâche du délégué départemental, c'est de parler à un Val-de-Marne hétéroclite, comme je disais, donc, et de le structurer sur le long terme. Donc comme j'ai dit, 10 ans, il y a trois Val-de-Marne. Il y a trois Val-de-Marne, il y a le Val-de-Marne où j'habite, à Ivry-sur-Seine, qui est de la petite ceinture rouge, qui est la ceinture rouge, voilà, donc vous avez Bonneuil, vous avez Ivry, Vitry, voilà, le Kremlin, mais le Kremlin qui a basculé au centre droit, donc ouais. Bon, il y a quand même des signaux un peu positifs, voilà, c'est cette ceinture rouge qui était ouvrière et qui avait des usines, mais comme je l'ai dit au premier conseil municipal d'installation, est-ce qu'on peut encore porter les idéaux ouvriers sans usine?
Mm-hmm.
Je ne pense pas que ce soit très compatible aujourd'hui. Donc il y a cet entre-deux un peu bâtard de tertiarisation de l'ancienne ceinture, enfin de la ceinture rouge. Mais c'est une tertiarisation qui est faite par des idéologues communistes qui croient encore que leur environnement est encore peuplé d'ouvriers, tout ça. Donc donc il faut parler en fait à ces anciennes personnes politisées très à gauche. Et c'est eux qui ont voté pour moi, en fait, à Ivry. Mmh. Finalement, c'est beaucoup d'anciens communistes qui ont voté pour le Rassemblement National, qui est, avec LFI, le seul parti populaire, je pense.
Mmh.
Les deux seuls mouvements populaires en France aujourd'hui sont le RN et la France Insoumise. Donc populaire, c'est-à-dire qui parle au peuple et qui parle à la plus grande partie des gens. Donc il y a ce Val-de-Marne rouge, il y a ce Val-de-Marne... plutôt à droite, bourgeois, qu'on a à Vincennes, Saint-Maur, Saint-Mandé, à qui il faut parler aussi, qui est bourgeois, conservateur, qui s'incarne dans Les Républicains, finalement, un peu cette position d'immobilisme. Mais quand on est immobile, le monde avance sans nous et on reste au même endroit, et donc après on est relégué vite dans le passé. Et aujourd'hui, ces territoires sont plutôt menacés par la désagrégation liée à l'insécurité ou au déclassement économique. Et aujourd'hui, je pense que cet électorat LR a peur de se voir déclassé.
Ouais.
Et on a le troisième Val-de-Marne, le Val-de-Marne rural, mm-hmm. sur le plateau Briard, qui vote majoritairement pour le Rassemblement National, mais dont le député est étrangement Louis Boyard. Parce que le découpage de circonscriptions inclut des circonscriptions des villes qui votent à gauche.
Donc Villeneuve-Saint-Georges.
Villeneuve-Saint-Georges. Je vais pas dire ça, mais j'aime bien le dire, Villeneuve-Coupe-Gorge, quoi. C'est vraiment, au bout d'un moment...
c'est un peu ça, oui.
Ouais, c'est pour que Villeneuve-Saint-Georges reste Villeneuve-Saint-Georges et ne devienne pas Villeneuve-Coupe-Gorge. Et puis c'est tant mieux que... qu'on a pu redresser la barre, en tout cas un peu à droite, mm-hmm. à Villeneuve-Saint-Georges. Donc voilà, il faut parler à ces trois Val-de-Marne qui sont hétéroclites, et le moyen de parler à ces trois Val-de-Marne, c'est d'avoir un mouvement populaire et d'incarner une politique populaire, comme je le fais, comme on essaie de le faire au Rassemblement National, et de briser cet équilibre et cette entente assez bizarre entre le PCF et LR, parce que le Val-de-Marne est partagé entre la droite historique LR et le PCF, les rouges historiques. Et on a quand même plusieurs députés LFI dans le Val-de-Marne. On a le CRU même de la France Insoumise dans le Val-de-Marne. On a Mathilde Panot sur la circonscription, Ivry. Sur Ivry. On a Louis Boyard, on a Clémence Guettet.
C'est ça.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a d'autres. On a Taillé Polluant, mais je crois que c'est le mouvement écologiste.
Oui.
Donc voilà, on a pas mal de rouges quand même. On a le cru du NFP, quoi. En tout cas, dans le Val-de-Marne. Et puis on a aussi des LR et puis des macronistes. Et...
En tout cas, bravo pour. Je vous ai coupé, pardon. Bravo pour ce que.
Merci.
Voilà, pour Ivry. Et puis je tenais aussi, si vous me permettez, à dire bravo aussi à votre adjoint, Gabriel Durand, qui a bien bataillé aussi à Vincennes.
À Vincennes, oui, exactement, ouais, qui a fait une performance historique.
C'est pour ça que j'en parle.
Ouais. Voilà, il a réussi à faire sa place au conseil municipal.
C'est ça.
Donc voilà, c'est très bien, on a réussi... a présenté 4 listes dans le Val-de-Marne. On a multiplié nos élus par 6. On n'avait qu'un élu qui était Alain Philippet au Plessis-Trévise en 2020. Et là, maintenant, on a 6 élus. Donc, bon, moi, je considère que c'est plutôt une belle performance. Surtout après ma nomination récente en tant que délégué départemental en novembre dernier. Donc, voilà, on a essayé d'impulser un mouvement très rapidement et très fort pour les municipales. Donc, j'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour qu'il y ait plus de listes, mais voilà, ce sont les faits.
Alors, comme ça passe très vite, je vais vous un peu revenir sur le dernier conseil municipal. Vous êtes intervenu contre le vœu de la LDH sur la situation au Liban. Vous avez dénoncé une certaine hypocrisie. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi il était important pour vous de ne pas laisser passer ce genre de posture ?
Eh bien, j'exprime toute ma solidarité, tout mon soutien au peuple libanais qui souffre depuis beaucoup d'années maintenant avec des périodes de stop and go, des assauts de la part d'Israël, des assauts de la part des islamistes, que ce soit de Daesh, et puis aussi qui est un peu gangréné, malheureusement, qui est gangréné par le Hezbollah. Donc voilà, aujourd'hui on a ce peuple libanais qui veut s'en sortir et qui veut faire nation, je pense, de plus en plus, et dépasser ces clivages ethno-confessionnels qui sont le réel problème du Liban, finalement. Et pourquoi c'était important pour moi de m'exprimer contre... D'ailleurs, je me suis abstenu de voter sur le vœu de la LDH, parce que je voulais pas non plus être contre politiquement cet appel à cesser le feu, mais je voulais pas cautionner cette organisation qui est une organisation militante et qui n'arrête pas d'attaquer partout tout sentiment d'appartenance nationale, toute la culture française aussi, la culture chrétienne. La LDH a fait beaucoup d'actions, et je l'ai dit, notamment au conseil municipal, a fait beaucoup d'actions pour faire déboulonner la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne, ou la statue de la Sainte Vierge Marie en Savoie, ou de déboulonner, d'effacer plein de symboles de la culture chrétienne, de la culture française aussi, finalement. Ça appartient au patrimoine historique et culturel français. Et je rappelais que c'est ce lien spirituel qui a en premier lieu uni le Liban et la France, et c'est ce lien spirituel que la LDH veut détruire. Et c'est ce lien spirituel qui est né avec Saint-Louis, qui a accordé sa charte aux Maronites le 24 mai 1250, donc les Maronites qui sont les chrétiens libanais, et qui l'ont libéré des Mamelouks, des cavaliers musulmans de l'époque qu'il avait fait otage. Voilà, donc c'était très important pour moi de dénoncer cette hypocrisie, qu'on ne peut pas être internationaliste à la maison, mais nationaliste pour l'étranger. Voilà, donc il faut vraiment avoir un discours cohérent.
Et vous avez également refusé que la ville d'Ivry devienne la vitrine de SOS Méditerranée, une association qui reçoit des millions d'euros publics. Quelles sont les priorités concrètes que vous défendez pour les Ivriens plutôt que ce type, on va dire, de communication militante?
Oui, d'ailleurs, le maire s'est vanté que de proposer une subvention chaque année à SOS Méditerranée. Il m'a dit « Monsieur Nader, on va plus loin que prêter une salle, on accorde une subvention à SOS Méditerranée ». Et vous aurez tout le loisir de vous exprimer contre, voilà. Donc oui, j'ai voulu rappeler tout simplement qu'SOS Méditerranée est une association militante, très militante, qui facilite l'immigration clandestine, donc qui facilite finalement l'infraction de la loi, qui facilite le fait d'enfreindre la loi, tout simplement de rentrer illégalement sur le territoire français déjà. Une association qui a 14,5 millions de ressources, d'euros. Donc c'est pas une association qui est sans ressources, c'est pas la petite association qui croule sous les dettes ou qui n'a pas de ressources financières. Et donc prêter une salle gratuitement à cette association-là, d'une part, dépasse pour moi le champ et le cadre de compétences de la commune. Enfin, ce n'est pas... La commune n'est pas censée faire de politique migratoire, de la politique migratoire ou de la politique... partisane de ce sens-là. Et puis deuxièmement, pourquoi gratuitement? On pourrait au moins faire payer, s'ils veulent vraiment aller jusqu'au bout de leur militantisme, faites quand même payer une petite somme à SOS Méditerranée. Ce serait bon pour les finances de la commune qui est endettée à 100 millions d'euros. Donc voilà, au moins 300, 600 euros selon les tarifs qui sont proposés par les salles communales. Tout simplement, c'était juste de remettre du bon sens, tout simplement.
Et vous avez posé d'ailleurs une question très directe à l'adjoint en charge des réseaux palestiniens. Avait-il déjà vu un camp de réfugiés de ses propres yeux ? Cette intervention d'ailleurs a marqué les esprits. Pourquoi est-il essentiel selon vous d'exiger des élus locaux qu'ils parlent des sujets internationaux en connaissance de cause ?
Oui, la vidéo a beaucoup tourné, mais pour moi, c'est important d'être un expert des questions pour lesquelles on est désigné. Et la question palestinienne est une question sérieuse. Derrière, il y a des souffrances importantes du peuple palestinien qu'il faut pas négliger. Et pour moi, quand on est nommé expert d'une question, on doit au moins connaître la chose empiriquement. On doit au moins avoir fait l'expérience personnelle du sujet qu'on aborde. Et donc, en l'occurrence, je me posais la question si la personne désignée, l'adjoint aux solidarités internationales et aux discriminations, quelle délégation d'ailleurs, pour une commune, solidarité internationale et discrimination, et avait vu un camp de réfugiés palestiniens de ses propres yeux, au moins pour qu'il connaisse au moins son sujet empiriquement et qu'il en ait déjà fait l'expérience. On m'a répété, oui, il n'y a pas besoin d'avoir vu une bombe nucléaire pour être contre le nucléaire. Mais bien sûr, on peut faire des sophismes comme ça pour tout. Et on n'a pas besoin d'avoir vu pour être empathique avec tous les peuples de la Terre. Mais bon, à ce moment-là, on fait dans le sentimentalisme et on fait du christianisme sans Dieu. Comme j'aime bien le dire, du christianisme sans Dieu. C'est du christianisme sans Dieu, en fait, ce qu'ils font les communistes. Donc, une sorte d'internationalisme, mais on se débarrasse des contraintes spirituelles, parce que c'est très contraignant, tout ça. Mm-hmm. Donc voilà, tout simplement, parce que moi j'ai déjà vu, malheureusement, des camps de réfugiés palestiniens, et puis c'est très triste, hein, ce sont des lieux de détresse. Je pense qu'aujourd'hui, les Palestiniens, comme les Israéliens, comme tous les peuples du Moyen-Orient, aimeraient qu'il y ait une solution à cette détresse humaine, hein. C'est sûr. Je pense que personne n'est contre la paix, normalement.
Il me semble. Au premier vrai conseil municipal, on va dire organique, hein, vous avez défendu avec force le refus de l'écriture inclusive dans les documents administratifs et vous avez rappelé qu'elle complique la lecture sans rien changer à l'inclusion réelle. Pourquoi ce combat du bon sens vous tient-il particulièrement à cœur ?
Ouais, c'est pénible de lire un document. C'est pénible de lire un document écrit en écriture inclusive. Et puis c'est pas ça qu'on se sent inclus ou exclu. C'est pas des petits points avec écrit ES qui. Enfin voilà, c'est pénible. Voilà, tout simplement. Et puis ça déforme la langue française qui est pour moi. Une des plus belles langues au monde avec énormément de nuances. Voilà. Donc vraiment de ramener du bon sens tout simplement dans ce conseil municipal. Voilà.
Et dans votre première allocution d'installation, vous avez rappelé que les Ivriens veulent des actions concrètes et incarnées, loin des incantations de la gauche. Quelles sont les premières mesures concrètes que vous portez déjà pour améliorer le quotidien des habitants ?
Moi, je voudrais tout simplement reprendre mon programme, c'est-à-dire déjà le vœu de créer une police municipale à Ivry-sur-Seine. Il n'y a pas de police municipale, on est 66 000 tout habitants quasiment. On a un commissariat de police nationale qui est complètement débordé, qui croule sous les délits et les crimes. Donc voilà, et qui ne peut pas résoudre les problèmes de tranquillité et de propreté. Et à Ivry, on a un problème criant de saleté, d'insalubrité et de tranquillité. Hein. Moi, je voudrais que les Ivriens retrouvent le sommeil. Parce que c'est très dur de dormir à Ivry quand on n'habite pas dans une petite résidence bien fermée. Ou voilà. Donc voilà, c'est des problématiques très, très claires.
Et quel est, pour terminer, le message que vous souhaitez laisser aux auditeurs de Radio Courtoisie qui partagent souvent... cet amour de la France, évidemment, enraciné, et cette volonté de reconquête.
Ce que je veux dire aux auditeurs de Radio Courtoisie, c'est que rien n'est perdu, rien n'est perdu d'avance. Vos opposants, vos rivaux espéreront toujours de vous que vous ne bougiez pas, que vous n'agissez pas. Et ne pas agir, c'est déjà avoir perdu. Et c'est laisser les autres prendre votre place. Donc, il faut toujours agir, même si on agit parfois dans le mauvais sens, au moins on n'est pas immobile. Rien n'est perdu, comme vous pouvez le voir, à Ivry-sur-Seine, il y a une bonne catégorie, une bonne part de la population qui n'a pas dit son dernier mot. Les Ivriens n'ont pas dit leur dernier mot. Rien n'est perdu d'avance, il suffit juste d'avancer et de croire, surtout de croire que tout est possible. On dit souvent, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et puis c'est un peu comme avec toute expérience, qu'elle soit scientifique, politique. Il faut agir et ne jamais se dire que c'est perdu d'avance, parce que ne pas agir, c'est déjà perdre.
Eh bien, Kevin Nader, c'est passé très vite. Hein. J'avais d'autres questions à vous poser, mais j'espère que qu'on pourra vous revoir et vous entendre j'espère prochainement aussi à la radio. Si vous voulez revenir, évidemment.
Si vous m'invitez.
Avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et à travers votre parcours, vos interventions courageuses au conseil municipal d'Ivry-sur-Seine, hein, que ce soit face aux postures de la, on l'a dit, LDH, au projet de vitrine pour SOS Méditerranée, à la question posée sur les réseaux palestiniens ou à la défense du bon sens contre l'écriture inclusive. Vous incarnez ce que beaucoup de Français attendent, hein, donc du courage, de la franchise et la priorité donnée aux habitants plutôt qu'aux idéologies. Donc, chers auditeurs de Radio Courtoisie, l'exemple de Kevin Nader nous rappelle que la reconquête passe par des engagements concrets, locaux, enracinés dans l'amour de notre pays et le respect des réalités du quotidien. Kevin Nader, hein, nous vous souhaitons beaucoup de force hein, et de succès dans ce beau combat pour redonner Ivry aux Ivriens. Et merci encore et à très bientôt sur nos ondes.
Merci beaucoup, à bientôt.
À bientôt. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. À mercredi prochain et bonne semaine.